Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 14, 25 août 2025. Les Américains et les Russes avaient été surpris par la décision de l'agence chinoise. Mais ils se disaient surtout que les Chinois avaient probablement pris la bonne décision pour le futur, même si plus personne ne pourrait retourner dans l'espace avant très longtemps. Au moins, les Chinois auraient toujours une station spatiale disponible dans 2 siècles ou 3. Les responsables de la NASA réunirent leurs homologues russes et européens pour décider des mesures à prendre avec l'ISS. Il n'y avait que 3 scénarios possibles. Ne rien faire, ce qui pouvait impliquer une destruction progressive par de multiples collisions et la production de très nombreux débris supplémentaires qui s'ajouteraient à la déjà trop grande population de petits corps destructeurs. Ce scénario n'était privilégié par personne. Le deuxième était de tout simplement désorbiter le plus vite possible l'ISS afin qu'elle ne devienne pas cette nouvelle source de débris de grande taille. Et le dernier scénario était calqué sur la décision chinoise, envoyer l'ISS le plus haut possible pour essayer de la conserver dans un état exploitable. Ce dernier scénario était de loin le plus aléatoire de tous. En ne faisant rien, les ingénieurs étaient à peu près sûrs de ce qui allait se passer. Mais en essayant de modifier drastiquement son orbite, une collision violente pouvait arriver sur le trajet, qui aurait finalement la même conséquence, mais avec des débris qui mettraient beaucoup plus de temps à se retrouver un jour dans la haute atmosphère pour y brûler. Le fait que le module Shenzhou soit parvenu à ramener sain et sauf les 2 taïkonautes après avoir traversé toute l'orbite basse 2 fois incita les dirigeants des agences américaines, russes et européennes à effectuer une manœuvre du même type. Le scénario ayant le plus d'aléas. Les Américains avaient initialement pensé à désorbiter la station pour éviter de produire encore plus de débris. Mais le fait de savoir que les Chinois avaient sauvé leur station pour un temps les piqua au vif. Ils avaient pensé initialement qu'eux aussi abandonneraient Tiangong à son triste sort. Les Américains ne pouvaient pas se résoudre à laisser les Chinois seuls à posséder une station spatiale désormais. Surtout que les Russes, qui étaient en train de concevoir leur propre station spatiale, de nouvelle génération, de leur côté, étaient maintenant hors course, comme les Européens. La NASA avait donc changé son fusil d'épaule et avait argumenté en faveur de la sauvegarde de l'ISS sur une altitude plus élevée, fût-ce en prenant le risque d'une catastrophe lors du transfert. Au moins, elle était vide, et aucune vie humaine n'était en jeu comme ça avait été le cas avec les taïkonautes chinois. Le plan qui avait été élaboré rapidement par les hauts responsables de la NASA et imposé tout aussi rapidement à leurs partenaires reposait sur l'utilisation du module de ravitaillement automatique Dream Chaser, la nouvelle petite navette de la société SNC que la NASA avait approuvée seulement quelques années auparavant et qui n'avait fait qu'un seul vol de démonstration l'année précédente. Le Dream Chaser était un vaisseau cargo réutilisable qui revenait sur Terre en planant, comme les navettes X-37B et Shenlong. Il pouvait emporter 5,5 tonnes de fret. Il était placé en orbite par un lanceur Vulcan à partir de Cape Canaveral. Son premier ravitaillement de l'ISS était initialement prévu pour le mois d'octobre, mais il était tout à fait possible d'avancer le calendrier. Et puisqu'il n'y avait plus personne à ravitailler là-haut, l'idée qu'avait eue Chris Matteo du département des vols habités était de bourrer la soute du Dream Chaser de carburant pour augmenter son autonomie de boost orbital afin de remonter l'ISS le plus haut possible, au moins jusqu'à 2000 km. Sur une telle orbite, l'ISS ne risquait presque plus rien, contrairement à la station chinoise qui n'était pas à l'abri de débris de l'orbite basse qui pourrait déborder jusqu'à un peu plus de 1000 km d'altitude. Ça s'était vu avec une petite portion des débris de Cosmos 1408. La NASA avait demandé une dérogation à l'autorité de contrôle des activités spatiales pour effectuer ce lancement dans le but de sauver la grande station spatiale. L'autorité de contrôle n'avait pas donné sa réponse immédiatement. Les experts avaient pesé le pour et le contre pendant près d'une semaine, et c'était finalement le 25 août que ce lancement exceptionnel avait été autorisé. Il y avait 2 conditions. Le Dream Chaser devrait utiliser la totalité du carburant qu'il emporterait, afin d'éviter toute explosion qui pourrait augmenter encore la quantité de débris, et il devait absolument revenir sur Terre, comme prévu, suite à la réhausse de l'altitude de l'ISS. Il n'y avait pas une minute à perdre pour les responsables de la NASA, qui savaient que chaque jour qui passait produisait plus de 1500 débris décimétriques supplémentaires. Les opérations de lancement avaient été anticipées, avant même que la CAS rende sa décision, ce qui avait permis de gagner quelques jours. Le lancement du Dream Chaser fut programmé pour le 6 septembre. C'est véritablement le surlendemain de la conférence de presse de la NASA que les habitants du monde entier qui n'utilisaient pas les réseaux sociaux avaient appris ce qui était en train de se passer 500 km au-dessus de leur tête, sans forcément prendre pleinement conscience des impacts sur leur vie quotidienne. Malgré la torpeur estivale, les médias à grand tirage ou à forte visibilité titraient maintenant tous sur les destructions de satellites qui s'enchaînaient à un rythme croissant. L'astronome français Laurent Briard prit l'initiative de réunir une très grande liste de scientifiques de tous les domaines, pas uniquement de la communauté astrophysique, pour écrire une tribune simultanément dans des grands journaux du monde entier. Le Monde, The New York Times, The Guardian ou encore le Süddeutsche Zeitung et le Yomiuri Shimbun. Les scientifiques y expliquaient tout d'abord dans le détail quelle était la situation actuelle et quelles en étaient les causes. Puis ils annonçaient les conséquences prévisibles et enfin décrivaient les actions qui, selon eux, devraient être engagées immédiatement afin d'atténuer un peu les conséquences de la catastrophe qui semblait inéluctable. Parmi les premiers signataires du texte, Laurent Briard avait réussi à écrire le nom de Donald Kessler. Les chercheurs décrivaient de phénomènes irréversibles qui étaient en train de se dérouler et qui avaient été prédits 47 ans plus tôt par Kessler et Kourpalais. De plus en plus de satellites de tout type, situés entre 300 et 1000 km d'altitude, subissaient des collisions avec des débris, produisant toujours plus de débris qui produisaient à leur tour d'autres fragmentations. L'expression « réaction en chaîne » était utilisée, une expression bien comprise par le grand public. Parmi les conséquences que mentionnaient Briard et ses co-auteurs, il y avait tout d'abord les conséquences à très court terme, avec la perte de nombreux satellites qui étaient très utiles pour l'observation de la Terre et l'étude de l'évolution du climat terrestre. Sans ces satellites scientifiques, l'évaluation des changements induits par l'effet de serre galopant, à la fois sur les océans et sur les divers compartiments atmosphériques et cryosphériques, deviendrait impossible. L'humanité deviendrait quasi aveugle sur les effets globaux du bouleversement climatique en cours, et c'était une très mauvaise nouvelle. Une autre conséquence était la disparition rapide également de très nombreux satellites de communication qui impacteraient les transmissions d'informations transcontinentales. Bien sûr, il restait les câbles sous-marins, mais une partie importante des transmissions de données, par exemple de télévision, serait directement affectée. Les systèmes de positionnement globaux seraient en revanche épargnés, comme les satellites météorologiques qui se trouvaient sur l'orbite géostationnaire à 36 000 km. Mais en fin de vie dans quelques années, ils ne pourraient jamais être remplacés. Ce n'était qu'un sursis avant le blackout météorologique et de géolocalisation. Les chercheurs mentionnaient également un effet à court terme qui pouvait sembler anecdotique au premier abord, mais qui pouvait avoir des conséquences géopolitiques non négligeables. La destruction à terme de quasi tous les satellites en orbite basse signifiait aussi la disparition de tous les satellites militaires espions de tous les pays en possédant. L'impact était difficile à estimer, mais il était certainement à prendre en considération. Les États deviendraient sourds et aveugles du jour au lendemain sur les activités étrangères qu'ils avaient pris l'habitude de surveiller depuis des années. Le tableau présenté était implacable et affreux. Concernant l'utilisation des satellites pour la science, Briard et ses co-signataires, dont un certain nombre étaient astrophysiciens, rappelaient que plusieurs télescopes spatiaux avaient déjà été mis hors d'usage du fait des débris depuis quelques semaines et que cela allait s'accentuer. Ils rappelaient néanmoins que certains grands instruments, se trouvait sur des orbites où le risque était totalement absent et s'en réjouissait. Il citait notamment les télescopes qui avaient été positionnés au point de Lagrange, comme le télescope Webb ou le télescope Gaia. À moyen terme, les chercheurs évoquaient un effet secondaire étonnant de cette ceinture de débris qui ne faisait que s'épaissir. C'était un effet qui avait déjà commencé et qui avait été remarqué par Laurent Briard, le premier, avec le télescope Vera Rubin. Comme le nombre de débris s'accumulait toujours dans la zone de l'orbite basse, le nombre de débris millimétriques ou submillimétriques qui finissaient par rentrer dans l'atmosphère augmentait lui aussi considérablement. La conséquence était l'équivalent d'une pluie d'étoiles filantes continuelle. Jour et nuit, des particules d'aluminium ou d'autres matériaux brûlaient dans l'atmosphère, créant des traînées semblables à ce qu'on pouvait admirer en été avec les Perséides ou en hiver avec les Géminides. Mais ces traînées étaient produites par des débris de plus grosse taille que les grains de poussière de comètes responsables des belles pluies d'étoiles filantes. Et elles ne s'arrêteraient pas avant plusieurs siècles. Cela pouvait être un spectacle au début pour le grand public, mais les chercheurs pensaient que les gens s'en lasseraient très vite. Pour les astrophysiciens qui utilisaient des télescopes au sol, en revanche, c'était une catastrophe. L'apparition incessante de météores de façon aléatoire sur toute la voûte céleste et durant toute la nuit rendrait inexploitable la plupart des grands observatoires astronomiques du monde entier. Ce serait la fin annoncée de la plus ancienne des sciences. Une fois que les télescopes spatiaux qui étaient à l'abri, comme le télescope Webb, arriveraient en fin de vie, les astrophysiciens n'auraient plus aucun moyen d'observation photonique efficace. L'avenir de l'astronomie, décrit par Briard, était sombre. À plus long terme, quelques années tout au plus, les chercheurs expliquaient que la conséquence de ce qui était en train de se passer était l'impossibilité pure et simple d'accéder à l'espace. L'orbite basse étant devenue une sorte de ceinture de particules d'aluminium et d'autres matériaux de diverses tailles, qui continuaient à se fragmenter en particules de taille toujours inférieure au gré des collisions successives, aucun lanceur ne pourrait plus jamais évoluer dans un tel environnement sans être immédiatement impacté et détruit sur le champ, s'ajoutant à la longue liste des débris. Les signataires de la tribune rappelaient également que cela interdisait donc aussi tout lancement d'hypothétiques systèmes de nettoyage des débris orbitaux. On ne pouvait littéralement rien faire face à ce fléau. Les chercheurs prévoyaient que le nettoyage naturel de l'orbite entre 300 et 600 km, qui verrait la quasi-totalité des particules de débris finir par rentrer dans l'atmosphère et y brûler, prendrait 3 à 5 siècles. Tandis que les débris qui auraient migré entre 600 et 1000 km, voire au-dessus, seraient encore présents en nombre en 2800. Tel Icare qui avait voulu s'approcher trop près du Soleil, l'humanité s'était brûlé les ailes en voulant s'accaparer l'espace autour de la Terre. Les rêves d'un retour de l'homme sur la Lune ne pourraient jamais s'accomplir, et encore moins ceux, plus fous encore, visant la planète rouge. Non seulement l'exploration spatiale humaine semblait définitivement compromise, mais c'était aussi toute forme d'exploration qui était désormais rendue impossible. On n'enverrait plus jamais de sondes spatiales vers Mars ou ailleurs. Une fois les sondes actuelles arrivées à la fin de leur mission, plus aucune nouvelle donnée ne serait disponible pour produire de nouvelles connaissances. La science astronomique s'arrêterait là, dans la première moitié du XXIe siècle. Les conséquences du syndrome de Kessler à grande échelle qui se déroulait étaient considérables pour l'avenir de l'humanité. Les chercheurs concluaient leur tribune, sans grand espoir, sur la seule solution qui restait selon eux aujourd'hui pour tenter de réduire l'effet et retarder un peu l'échéance funeste de la production d'une ceinture de dizaines de millions de débris. il demandait expressément aux États d'imposer aux opérateurs de satellites de désorbiter le plus vite possible tous les satellites qu'ils contrôlaient encore. De cette manière, en réduisant la masse globale en orbite basse, on pouvait espérer une réduction de l'effet de la réaction en chaîne. Ils avaient utilisé les images de la réaction nucléaire en chaîne, qui s'arrêtait naturellement faute de matière à fissionner, ainsi que celle de la propagation du virus SARS-CoV-2, qui était encore bien présent dans les mémoires 5 ans après. Mais cela ne produirait au mieux qu'un ralentissement de la catastrophe. La nouvelle s'était répandue sur tous les continents, mais la plupart des gens ne comprenaient pas encore vraiment ce qui était en train de se tramer. Les GPS fonctionneraient toujours, ainsi que les retransmissions intercontinentales d'émissions de télévision. Alors, ce qui semblait difficile à saisir était la temporalité de l'impact. Certes, les satellites de positionnement globaux et les satellites de retransmission étaient en sécurité sur des orbites géostationnaires à 36 000 km, mais comme tout objet fabriqué par l'homme, ils n'étaient pas éternels, si ce n'était que leur obsolescence ne fut pas déjà programmée. Or, puisque l'apparition d'une véritable ceinture de débris de plus en plus dense, entre 300 et 600 km d'altitude, rendrait désormais l'accès à l'espace totalement impossible, lorsque les satellites des systèmes GPS et tous les autres satellites qui étaient actuellement en sécurité en géo arriveraient eux aussi en fin de vie, ils ne pourraient jamais être remplacés. Les journalistes parlaient rarement de cela quand ils évoquaient la catastrophe orbitale en cours. Les GPS fonctionneraient encore pendant quelques années, mais au fur et à mesure de l'arrêt des satellites de ces constellations en fin de vie, le service deviendrait de moins en moins performant, jusqu'à ne plus fonctionner du tout. C'était vrai également pour les prévisions météorologiques, qui fonctionneraient encore dans les quelques années suivantes, mais probablement plus 15 ans plus tard. Bientôt, plus rien ne fonctionnerait. Plus de géolocalisation, plus de météo, plus de transmission intercontinentale, plus de surveillance de la Terre. L'impact était difficilement appréhendable quelques mois ou années avant son apparition. On avait tellement pris l'habitude de connaître le temps qu'il ferait le lendemain ou une semaine plus tard. Il faudrait réapprendre à vivre comme avant 1957, avant l'ère des satellites artificiels. Et il faudrait apprendre à ne plus rêver d'un échappement interplanétaire ou interstellaire, si improbable. La littérature ou le cinéma de science-fiction survivrait à la catastrophe, mais ce ne serait que pour produire une forme d'immense frustration chez le lecteur ou le spectateur, qui ne pourrait dorénavant plus se projeter dans ces voyages spatiaux devenus totalement illusoires. Les gens prenaient le plus souvent connaissance de la situation inédite au retour de leur congé, en cette fin août caniculaire comme les étés précédents, après 2 semaines de déconnexion du monde et des chaînes d'information en continu. Les informations en continu ne parlaient évidemment que de ça, mais sans la projection nécessaire à moyen terme qui décrirait la situation lorsque les satellites épargnés à court terme arriveraient en fin de vie. 10 ans était un horizon bien trop lointain pour ces pseudo-journalistes. Avant même que les derniers satellites de positionnement global n'arrivent en fin de vie, les gens devraient réapprendre à utiliser des cartes routières pour aller d'un point A à un point B, ne connaissant pas avec exactitude leur position au temps T. Le secteur de la livraison serait également bouleversé. On pouvait penser qu'il reposerait au départ sur des cartes numériques archivées pour connaître la localisation des points de livraison, mais en cours de trajet, la carte en papier deviendrait l'outil incontournable. Cela produirait immanquablement des délais plus longs et le besoin de nouvelles compétences. Un autre impact majeur de la perte de la localisation itinérante apparaîtrait dans le secteur du trafic maritime. La localisation et la vitesse précise des porte-conteneurs qui parcouraient tous les océans pour transporter leurs marchandises d'un continent à un autre était un élément majeur de prévision des coûts de transport à appliquer pour les armateurs et leurs donneurs d'ordre. Les marins devraient réapprendre à calculer leur position au milieu d'un océan et à utiliser toutes les possibilités offertes par les ondes radio pour communiquer, quitte à passer de longues journées sans aucun contact.